Nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci à la chorale. Et tout en poursuivant avec notre programme, lisons à Jérémie chapitre 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Évoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur te rappelle encore cet après-midi qu'il y a des grandes choses que tu ne connais pas. Mais il te demande de l'évoquer parce qu'il est disposé à te répondre. Il est disposé à t'écouter. Il est disposé à opérer des miracles dans ta vie. C'est pourquoi chacun de nous va saisir cette occasion pour prier à sa faveur. Nous sommes en train de commencer les 14 jours de prière. Et je suis convaincu que durant ces 14 jours de prière, tu auras sincèrement besoin de la grâce de Dieu. Tu as des sujets de prière que tu veux présenter à Dieu. Nous avons aussi d'autres sujets de prière que nous allons te proposer. Tu as donc besoin de commencer ces 14 jours avec Dieu pour aller terminer avec lui. Tu vas prendre la position qui t'arrange et tu vas commencer à prier d'abord à faveur de toi-même, demandant à Dieu de te faire la grâce de voir sa main, de le voir agir durant ces 40 jours. Demande à Dieu de te fixer un joli rendez-vous. Toutes les fois que tu mettras à part une heure de prière le matin ou une heure de prière les après-midi, toutes les fois que tu viendras suivre les enseignements ici, tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il est temps de prier pour toi. Si tu vas t'élever, si tu vas t'agenouiller, tu es libre. Commence à parler à Dieu parce que il est celui qui vient de te dire « Évoque-moi et je te répondrai. » Dieu est disposé à répondre à ta prière. Dieu est disposé à t'écouter. Dieu est disposé à opérer des miracles dans ta vie. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Tu es venu dans la présence de Dieu. Tu es venu dans la présence de Dieu. Il est temps pour toi de prier à ta faveur. Demande à Dieu de sanctifier ces 14 jours de prière et que ça soit vraiment une période où tu vas connaître une croissance dans ton expérience personnelle avec Dieu. Alors, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Cet après-midi, évoque-moi et je te répondrai. Seigneur, tu es disposé à nous répondre. Tu es disposé à nous révéler de grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi, Père, à ce premier jour de notre programme de 14 jours de prière et d'enseignement, je viens me présenter devant toi, te demandant au Dieu de me fixer rendez-vous. Toutes les fois que je mettrai à part des minutes, chaque matin et chaque soir, pour te parler et pour t'écouter, que ce soit des occasions où je vais bénéficier de quelque chose qui va me permettre d'épanouir ma relation en toi, Seigneur. J'ai sincèrement besoin de toi. Je suis convaincu que ce n'est pas par hasard que tu as fait que je puisse participer à ce programme. C'est pourquoi, Père, sanctifie-moi. Sanctifie mon frère. Sanctifie ma sœur. Nous voulons te voir agir, Seigneur, durant ces deux semaines. Nous voulons te voir agir, Seigneur, durant ces deux semaines. Tu vas demander à Dieu de te rendre disponible. Demande à Dieu de te délivrer de tout ce qui peut t'empêcher d'être efficace durant ces 14 jours de prière. Tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin d'avoir des programmes qui t'arrangent. Tu as besoin de ne pas avoir beaucoup de choses qui peuvent te distraire. Tu vas prier même pour ton quartier. Tu vas prier pour ta famille. Qu'il n'y ait pas de choses qui peuvent te déconnecter. Qu'il n'y ait pas de choses qui vont t'empêcher d'être dans la présence de Dieu durant ces 14 jours. Prie en faveur de toi-même. Continuer à intercéder en faveur de tous les membres de cette paroisse qui ont accepté de souscrire à ce programme. Que Dieu les délivre de tout ce qui peut les empêcher de participer au culte. Que Dieu les délivre de tout ce qui peut les empêcher d'être efficaces. Si vous connaissez un membre de cette paroisse, le nom, vous pouvez même le citer nominalement. Parce que nous voulons marcher ensemble avec Dieu pour glorifier le Seigneur. Prie en faveur des membres de cette église. Prie en faveur de ce programme. Que ce soit un programme qui va réussir. Et cela pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous sommes en train de te présenter tous les membres de cette paroisse. Les membres de cette paroisse qui ont suivi les communiqués, leur rappelant que nous avons 14 jours dans ta présence. Seigneur, nous te demandons de les sanctifier pour ta gloire, mais aussi de les rendre disponibles dans ta présence. Il y a ceux qui comptent travailler le matin, il y a aussi ceux-là qui ont mis à part les heures du soir pour être dans ta présence. Seigneur, nous te demandons de fixer à chacun d'eux un joli rendez-vous. Toutes les fois qu'il sera dans ta présence durant ces 14 jours, que ce soit des minutes et des heures qui seront bénéfiques pour lui. Bénis Seigneur toute cette paroisse. Bénis toute cette paroisse. Chemine avec nous durant ces 14 jours de prière, parce que nous croyons que tu vas le faire. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout un tout petit peu. Vous vous souviendrez qu'au mois de janvier, la paroisse nous avait encore organisé un programme comme celui-ci, et durant ce programme, nous avions intensément prié en faveur des sujets de prière qui nous étaient proposés, mais aussi des sujets de prière particuliers. Si depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu Dieu a exaucé sa requête pour laquelle nous avions prié au mois de janvier. Il va lever sa main et nous allons remercier le Seigneur avec lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur parce qu'il a réalisé de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. S'il dit « Évoque-moi, je te répondrai. » En tout cas, il doit tenir à la réalisation de sa promesse. Vous avez levé vos mains et je sais que le Seigneur a agi au-delà de ce que vous avez vu. C'est pour cette raison que je vais encore vous encourager à accepter de marcher avec le Seigneur durant ces 14 jours parce que vous ne serez pas déçus. Nous allons approcher les serviteurs de Dieu pour l'enseignement et quand il sera en train d'avancer, nous allons acclamer le Seigneur.
Prions. Père Céleste, nous sommes dans ta présence encore à ce moment. Nous voulons écouter de ta part. C'est à cause de cela que nous voulons te demander de disposer favorablement nos cœurs afin de pouvoir recevoir quelque chose de nouveau de ta part. Bénis-nous pendant ces instants. Nous te les prions en Jésus-Christ. Amen. Assoyons-nous. Bonjour à tous encore. Nous disons merci à Dieu qui permet que nous puissions être ensemble ce soir où nous allons entrer dans la réflexion sur la parole de Dieu autour du thème général qui a été assigné à ces deux semaines de prière, de jeûne et enseignement, le thème qui parle des dons spirituels et des signes, plutôt et des songes, leurs bienfaits et leurs défis pour l'Église aujourd'hui. Durant les deux semaines, nous allons parler des dons spirituels. Nous allons parler des songes. Mais cette semaine, qui est la première, nous allons focaliser sur les dons spirituels. Et nous allons parler des avantages de ces dons-là, les bienfaits. Nous allons parler aussi des défis qui sont liés aux dons spirituels, les défis qu'il faut relever. C'est pour cela que déjà aujourd'hui nous allons entrer dans la lecture de 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. C'est là que nous allons focaliser notre attention pour exploiter la réflexion de ces jours. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Si nous avons trouvé, je vais conduire la lecture. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, les dons de guérison, par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. Et à un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, c'est la parole de Dieu. Alors, ce texte est fondamental pour l'étude des dons spirituels. Il est vrai que on parle des dons spirituels dans d'autres textes de la Bible, mais le texte fondamental qui nous parle d'une manière claire sur les dons spirituels, c'est celui-là. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. Et si vous considérez bien le premier verset, déjà l'apôtre Paul nous place dans une situation où il évoque un danger qui plane sur la vie de tout chrétien qui vit dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels. Et c'est pour cela qu'il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il sait que lorsque une personne décide de s'approcher de Dieu, plus je m'approche de Dieu, plus je dois savoir que le diable aussi s'approche de moi. Le diable n'est pas trop loin de ceux-là qui cherchent Dieu. Si vous engagez à chercher Dieu, vous devez savoir que le diable vous cherche alors. Quand vous approchez de Dieu, alors le diable s'approche de vous et il y a possibilité qu'il puisse vous embrouiller et qu'il puisse vous donner ce qui ne vient pas de Dieu et vous allez penser que ça vient de Dieu. C'est le danger dont Paul parle là-bas et il préconise que pour résister au diable, il faut sortir de l'ignorance. Amen. Et c'est ça que nous voulons lorsque nous disons que l'Église a programmé que nous puissions parler des dons spirituels, de leurs avantages, mais aussi des défis que les dons spirituels présentent, des défis qu'il faut relever. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est Jésus. Jésus, dans Matthieu chapitre 4, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu les conduit, les conduisit dans les déserts. Parce qu'il voulait commencer son ministère et il savait qu'il y a beaucoup de défis dans ce ministère-là et il voulait bien se préparer pour qu'il fasse aboutir à bon port les ministères qui lui avaient été donnés par son Père dans les mondes. Alors il y va, jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il est à la fin du jeûne, alors que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui l'a conduit là, pour qu'il s'approche de Dieu, le diable s'approche de lui et il le tente. Ça, c'est le premier exemple que j'ai pensé qu'il peut nous aider à comprendre bien ce de quoi il s'agit lorsque Paul dit « c'est dangereux de rester dans l'ignorance lorsque nous parlons des dons spirituels ». Le deuxième exemple, c'est dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, où la parole de Dieu dit, c'est de la bouche de Jésus, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de mon Père. » Alors, comme pour dire, ce ne sont pas tous ceux-là qui pensent qu'ils ont des dons spirituels qui entreront au ciel. Mais ceux-là qui font la volonté de Dieu, le Père qui a envoyé Jésus. Vous pouvez sembler avoir des dons spirituels, Alors que ce sont des dons spirituels, mais ils viennent de quel esprit? Ce sont des dons de l'esprit, mais de quel esprit viennent ces dons que vous utilisez? C'est le cas de ces gens ici. Parce qu'en fait, la parole de Dieu continue à dire, parce que les jours-là, certains viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles à ton nom? On ne peut pas chasser les démons si on n'a pas un don spirituel. On ne peut pas prophétiser si on n'a pas un don spirituel. On ne peut pas accomplir des miracles si on n'a pas de don spirituel. Mais il y a des dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Il y a aussi des dons spirituels qui viennent d'autres esprits. C'est ce qu'il faut savoir. Et c'est ce que Jésus relève ici. Quand on est dans l'ignorance par rapport aux dons, on peut être utilisé pour utiliser des dons spirituels du monde négatif au lieu d'utiliser des dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, si aujourd'hui vous voyez quelqu'un qui dit « Au nom de Jésus, Esprit, sort », vous allez dire « Il a une grande foi », n'est-ce pas? Vous allez dire « Il a des dons spirituels ». Mais ce n'est pas rare de trouver même aujourd'hui dans des églises où il y a des personnes qui chassent des esprits, il y a des personnes qui font des miracles, mais qui les font par des puissances occultes, des puissances malsaines, des puissances qui ne viennent pas de Dieu. Ils sont dotés de puissances, mais celui qui les a dotés de ces puissances-là, c'est le diable lui-même, ou ils sont utilisés par des démons. Alors faisons attention, parce que l'ignorance de ce que Dieu dit par rapport aux dons peut faire que nous puissions avancer plus loin sans être avec celui avec qui nous devions avancer, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier élément que je voulais relever dans ces enseignements pour que nous puissions savoir que la lutte que Paul préconise, c'est celle de quitter l'ignorance. L'ignorance par rapport aux dons spirituels. Alors, le deuxième élément que je veux présenter concerne la définition des dons spirituels. Parce qu'on peut parler de dons spirituels, si on n'en connaît pas la définition, on peut se tromper. Si je viens de parler des dons spirituels faux, à côté des dons spirituels vrais, alors il faut savoir, lorsque nous parlons des dons spirituels vrais, parce que nous sommes à l'église, dans le monde positif, qu'est-ce que nous appelons dons spirituels vrais? Parce que si vous ne connaissez pas le vrai, vous n'allez pas savoir découvrir les faux. N'est-ce pas? Pour la monnaie, il y a des faux billets et de vrais billets. Il n'y a que celui qui connaît le vrai billet avec ses caractéristiques qui va découvrir qu'on est en train de vouloir les tromper avec un faux billet. Amen. Alors, les dons spirituels, la Bible ne donne pas une définition formelle de ça. Mais en glanant dans la Bible, en voyant comment la Bible s'exprime sur les dons spirituels, il est possible que nous puissions dégager une définition qui est acceptable et qui est facile à comprendre. Les textes que nous avons lus nous parlent des dons spirituels. C'est pourquoi Paul dit « pour ce qui concerne les dons spirituels ». Alors, vous savez que le texte, la parole de Dieu, le texte biblique a été écrit en grec pour le Nouveau Testament et en hébreu pour l'Ancien Testament. C'est ça ce qu'il faut connaître en général. Alors, le grec utilise le mot charisma pour désigner don. Charisma. Et dans le mot charisma, c'est de ce mot que les Français empruntent le mot charisme. Quand on dit que quelqu'un a du charisme, c'est-à-dire qu'il a des capacités qui sortent de l'ordinaire. Alors, dans le mot charisme, il y a un autre mot caché qui est charis. Charis qui signifie une grâce donnée, une grâce qui a été donnée à quelqu'un. Alors, une grâce c'est quoi? C'est une faveur qu'on reçoit sans l'avoir mérité. Alors, toute faveur qu'on te fait, sans que tu n'aies mérité cette faveur-là, c'est une grâce. Parce que si on te fait une faveur que tu as méritée, ce n'est plus une grâce, ce n'est plus un don, c'est un cadeau. Parce que le cadeau vient récompenser les efforts fournis, les mérites qu'une personne peut avoir. Mais lorsque vous ne méritez pas, on vous donne quelque chose, ça devient un don. C'est un don parce que vous ne le méritez pas, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Alors, c'est ça la vraie définition du don. C'est une faveur accordée, mais d'une manière non méritée. Alors, les dons, quand on parle de dons spirituels, c'est-à-dire on vient ajouter spirituel à don. Je viens de dire que don, en grec, c'est charisma. Alors donc, quand on ajoute spirituel, le terme grec qui est utilisé là, c'est pneumatikos. C'est ça, qui rappelle, qui évoque l'esprit. C'est-à-dire, à l'origine, ça désignait d'abord souffle. Mais plus tard, comme l'esprit était aussi représenté par le souffle, alors on a dit c'est soit le souffle, soit l'esprit. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez le terme pneumatikos dans la Bible, ça veut dire qu'il s'agit là soit de l'esprit, soit du souffle. Alors, quand vous lisez, pour quelqu'un qui va avoir la possibilité de lire le grec, il va trouver que le mot qui est dans le texte que Paul a écrit ici, ce n'est pas pneumatikos, mais c'est pneumatikon. Ça, c'est une forme de déclinaison qui montre que ce n'est plus l'esprit dont on parle là-bas, mais on dit de l'esprit. Parce qu'en fait, c'est une façon peut-être de dire de conjuguer les Grecs pour que ça puisse prendre d'autres formes. C'est-à-dire, quand on dit l'esprit, mais ici, pneumatikon veut dire de l'esprit. Alors, quand ici, c'est associé au don, quand on dit, c'est pourquoi on dit don de l'esprit. Ici, quand on dit de l'esprit, ça veut dire que c'est un don qui vient de l'esprit. Alors, l'esprit ici, c'est l'esprit de Dieu, ce n'est pas n'importe quel esprit. Et Paul souligne d'ailleurs dans cet épître que ne vous en faites pas, il faut faire attention parce que même les esprits des ténèbres peuvent se transformer en esprit de quoi? En esprit de lumière. Donc, faisons attention lorsqu'on parle de l'esprit et de ce qui vient de l'esprit, il faut toujours se rassurer que ce dont je parle et je dis que ça vient de l'esprit, ça vient réellement de l'esprit de Dieu. Parce qu'il est facile que l'esprit du mal puisse se glisser et pour qu'il puisse te donner des choses. Et si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à vivre avec des choses qui vous viennent de l'esprit du mal au lieu de vivre avec des choses qui viennent de l'esprit de Dieu comme tu l'as souhaité au début. Alors, eu égard à tout cela, il y a une définition qui se dégage que je vais vous lire tout doucement pour que vous puissiez comprendre. C'est que les dons spirituels sont des capacités, des interventions, des manifestations surnaturelles spéciales, exclusives et opérantes, qui sont données. C'est don parce que c'est donné gracieusement par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, à un croyant né de nouveau pour accomplir une œuvre spécifique donnée pour la gloire de Dieu et cela à un moment spécifique au sein de l'Église. C'est long, avec des termes un peu compliqués, mais c'est facile à comprendre. C'est une grâce, c'est une manifestation, c'est une capacité, c'est une aptitude surnaturelle mais aussi spécial, qui est exclusivement donné gracieusement par le Saint-Esprit à une personne incroyable née de nouveau. Ici, ce qu'il faut souligner, c'est que on ne peut pas parler de dons spirituels qui viennent de l'Esprit de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas avoir des dons spirituels. Si vous trouvez quelqu'un qui dit qu'il utilise des dons spirituels et que quand on parle de la nouvelle naissance, il manque la boussole, alors là, il faut savoir qu'il n'est pas en train d'utiliser des dons spirituels venant du Saint-Esprit. Il peut être en train d'utiliser des dons spirituels qui viennent d'une autre source que la source divine. Amen. Ça, c'est cardinal, c'est important, c'est fondamental pour nous de comprendre. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui donne gracieusement, sans mérite. Et cela fonctionne au sein de l'Église. C'est-à-dire, lorsque les dons spirituels quittent ou sortent du cadre de l'Église, ils cessent d'être un don spirituel dont la source est le Saint-Esprit. En dehors de l'Église, les dons spirituels ne fonctionnent pas comme venant de Dieu. On peut avoir des simulations de dons spirituels, comme c'est le cas dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. On peut avoir des... Quel est le synonyme de simulation? Des semblants de dons spirituels. Des clichés, je ne sais pas, des dons spirituels. Alors que ce ne sont pas des dons qui viennent du Saint-Esprit. Et là, il faut faire beaucoup attention. Alors, l'élément suivant, c'est la différence entre les dons spirituels et les talents. Et ici, il ne faut pas confondre talent avec l'unité de mesure dont on parle dans Matthieu chapitre 25 versets 1 à 30. Là où on dit, il y a quelqu'un, un homme riche, avait voyagé et il y avait des serviteurs et il laissa des talents à ses serviteurs. Le premier, il lui donna combien? Combien? 5. Le deuxième, 2. Le troisième, 1. Celui qui a reçu 5, il a fructifié et c'est devenu 10. Celui de 2, il a fructifié, c'est devenu combien? Et celui de 1, il est allé enterrer. Alors, est venu le moment du rapport. Alors, chacun a donné les comptes par rapport au talent ou à l'argent qu'il a reçu. Alors, ce ne sont pas les talents là dont nous parlons lorsque Paul parle des dons spirituels, lorsque nous voulons les comparer aux dons spirituels. Les talents ici, dans le contexte de ce que nous y disons ici, ce sont des dispositions, des aptitudes, des capacités innées. C'est-à-dire qu'on a à partir de la naissance et qui permettent à une personne de réaliser des choses extraordinaires d'une manière qui sort de l'ordinaire. Alors ici nous parlons de la manière de réaliser des choses extraordinaires. Nous ne parlons pas de la manière de réaliser des choses surnaturelles. Parce qu'il y a surnaturel et extraordinaire. Il y a ordinaire, il y a extraordinaire, il y a aussi surnaturel. L'ordinaire, c'est ce qui est ya kawaida. L'extraordinaire, c'est toujours dans la nature, mais ce n'est pas surnaturel. Ce qui est surnaturel, c'est en dehors de la nature, en dehors de ce qui est humain. Alors, ici, même si avec les talents, on est capable d'avoir des aptitudes, de faire des choses de manière extraordinaire, la personne qui fait ça est née avec ces capacités-là. Parce que c'est lié au génotype, c'est lié au gène, c'est lié à l'héritage génétique que nous avons. Parce que tout le monde qui est brun ici, il a des gènes qui lui donnent, qui lui dictent le caractère de la peau brune. Ainsi en est-il pour ceux qui sont noirs, la peau de la couleur, c'est ça. Alors, à part ce qui se voit, il y a les choses qui sont dictées par le gène, qui sont innées chez nous, mais qui nous donnent la possibilité d'être capables d'apprendre et de faire mieux, et cela de manière extraordinaire par rapport aux autres avec qui nous apprenons la chose. Ça se fait remarquer dans les jeux, par exemple. Dans un domaine des jeux et de l'art, vous pouvez voir quelqu'un dans le sport, par exemple. Il fait des choses extraordinaires, mais il les fait dans son état naturel. C'est un homme, mais il fait des choses d'une manière que tout le monde ne peut pas savoir les faire. Le football, par exemple, la musique, ça peut être un talent. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons besoin de dire à ceux-là qui jouent à la musique, à l'église, de savoir que ce n'est pas pour autant que parce que tu joues mieux et mieux à la guitare que tu vas dire que tu as les dons de la musique. Tu as les talents, mais ce n'est pas un don spirituel. Amen. Amen. Chantez bien avec une voix. Ah, merci beaucoup. Une voix angélique qui ressemble un peu à la voix de l'ange. Ce n'est pas un don. Ça peut être un talent. Tout simplement parce que Dieu, quand il a créé ton corps, ton organisme, il a mis des gènes qui travaillent bien la voix, et la voix devient comme une voix d'ange. Ça, c'est naturel. Mais ce n'est pas que parce que quand tu chantes, alors il y a l'Esprit de Dieu qui vient et qui change la voix. Non. Mais il est possible que celui qui a un talent puisse aussi avoir un don spirituel. Toujours dans le même sens, c'est possible. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont éloquentes. Quand ils parlent, c'est tout le monde qui est accroché. Mais l'éloquence, ça peut être un talent. Mais ça peut ne pas être, quoi? Un don spirituel. Je crois là, vous avez compris. Dans le domaine de la science, il y a des personnes très intelligentes. Ils ont ça comme talent. Il y a des familles qui n'ont que des enfants très intelligents. Il n'y a pas de bruit. Quand on dit, ce sont des génies. Ils sont nés avec l'intelligence. Ils ont des prédispositions innées à être intelligents. C'est-à-dire, il peut être devant un enseignant qui enseigne, lui ne va même pas vouloir étudier. Devant l'examen, il se souvient tout simplement de ce que l'enseignant disait, il répond et il a le maximum de points. Ça, ce sont des talents. Ce sont des talents, ce ne sont pas forcément des dons spirituels. Mais un don spirituel, ça vient pour quelqu'un qui est né de nouveau d'abord, nous allons encore y revenir, et encore. Alors, qui est dans l'église au service du Seigneur? Et le Seigneur trouve qu'il est mieux que lorsque moi je suis en train de faire mon travail. Alors, le Seigneur intervient d'une manière surnaturelle dans le travail naturel d'un humain. C'est ça le don spirituel. Amen. Amen. Nous sommes à l'église. Et le Seigneur trouve que nous sommes en prière et qu'il y a une parole de connaissance qu'il faut qu'il communique. Alors nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Et une personne dit, le Seigneur me dit de dire ceci. Et il dit la chose. Et vous voyez que la chose est une réponse à un problème réel qui est ressenti et exprimé au sein de la congrégation. Alors faisons attention, parce que quelque part, nous, dans nos groupes, lorsque nous étions des jeunes, je crois qu'il y a qu'à se souvenir, il y a une fille qui, parce qu'elle est hantée par un esprit de mariage, alors on a prié, il dit, « Mungu ananiambia wewe utanio. » Ça s'est passé un jour dans un groupe, et puis le garçon a été aussi chargé, « Ok, kama Mungu amekuambia, iko mzuri. » Na ukue pasia, paka na mie Mungu aniambie, njo tuwe kama tunaviendesha na mato. Wewe haupendi kutii roho. Roho amesema, sasa wewe unaanza kubishabisha. Hii maneno ya akili, kufutumikisha akili, maneno ya kiroho iko mbaya. Alors vous comprenez que quelqu'un, il a des intentions, et il veut les faire passer pour intervention de Dieu, et il dit forcément, roho ameniambie. Amen. Amen. Et ça se plaint dans des groupes. Je viens de parler de notre groupe. Il y a qu'à peut-être se souvenir. Mais il y a d'autres qui prennent des groupes de l'église dans des chambres. Alors ça, c'est dangereux. Parce que c'est dans des chambres, c'est en sortant les dons de son contexte. Parce que les contextes appropriés pour l'utilisation du don, c'est où, j'ai dit? C'est où? C'est l'église. Lorsque on prend que ce qui est de l'église, on va utiliser ça en dehors de l'église, alors là il faut savoir qu'on est sur une pente très glissante et les risques d'être utilisé et manipulé par le diable et les démons devient beaucoup plus grand. Amen. Amen. Et même pour dire Amen, ça devient difficile. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Alors donc, je venais de dire qu'il y a une différence entre talent et don. Ne prenez pas les talents pour les dons et ne prenez pas les dons pour les talents. Ça, c'est important à connaître. Autre chose, c'est qu'il y a une différence entre don et ministère. Si vous lisez les versets 4 et 5, vous allez comprendre que Paul dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et il parle des opérations. Paul parle des dons et il veut les séparer des ministères. Il est vrai que les ministères ressemblent beaucoup aux dons et que les dons ressemblent beaucoup aux ministères. C'est pourquoi dans les textes qui parlent des dons et des ministères, vous allez avoir la difficulté de distinguer don et ministère. Mais je vais vous donner un principe un peu simple pour les distinguer. Un ministère, c'est naturellement le service. Parce que ministère signifie service. C'est le service que nous rendons à Dieu au sein de l'Église. C'est ça qu'on appelle ministère. Alors, qui peut m'assurer? Vous connaissez le ministère dans l'Église? Citez un peu de ministère dans l'Église. Vous êtes dans quel ministère? Ministère des chants. Ministère? Ministère? Intercession. Ministère? Accueil protocole. Qui est au ministère des couples, ministère d'évangélisation. Il y a beaucoup de ministères. C'est-à-dire les services que vous choisissez de rendre à Dieu au sein de l'Église, c'est ce qui s'appelle ministère. Alors, est-ce que vous pouvez nous assurer que tout le monde qui est dans un service chrétien au sein de l'Église est déjà converti, né de nouveau? Oui. Pas nécessairement, pas forcément, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans les ministères et qui ne sont jamais nés de nouveau. Nous sommes à l'église, Jésus avait dit « Mwache magugu nangano vikoma epamoja ». Magugu, ce sont des personnes qui ne sont jamais sauvées, bien qu'étant à l'église. Et ceux qui sont sauvés disent « Ces gens ici vont nous faire mal marcher, ils vont handicaper notre marche avec le Seigneur, il faut les dégager ». Et le Seigneur dit, laissez tout le monde là. Parce que c'est lui, le propriétaire du champ, qui sera le jour où il va séparer les magougous, les blés et l'ivraie. Alors, nous ne pouvons pas nous empêcher de marcher avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau au sein de l'Église. Mais l'appel du Seigneur, c'est que chacun de nous puisse profiter de la patience de Dieu pour être né de nouveau, parce qu'il viendra un moment où la porte du ciel sera ouverte et ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau pourront voir la porte fermée devant leur nez. C'est le cas de Matthieu chapitre 7. Des gens qui ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Mais le Christ dit, ces gens-là, quand ils viendront devant la porte, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Sortez d'ici, retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. Est-ce que chasser les démons, c'est une iniquité? Prophétiser, c'est une iniquité? Accomplir des miracles, c'est une iniquité? Ici, la nuance, c'est laquelle? C'est que Dieu dit, tout le monde qui n'est pas encore né de nouveau, tout ce qu'il fait, qu'il chasse les démons, on ne sait pas par la force qui vient d'où cette personne-là. Tout ce qu'il fait est saleté devant Dieu. Toutes les bonnes œuvres que nous pouvons faire, pensant que nous les faisons à Dieu, ce sont des iniquités, de la saleté, de la pourriture devant Dieu. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire là-bas. Alors, tout le monde qui est à l'église, qui n'est pas encore né de nouveau, mais qui est dans un ministère, il est dans le ministère, il est libre d'y être. Mais ceux-là qui sont nés de nouveau et qui sont dans le ministère, de temps à autre, ils vont constater que dans leur ministère, le Seigneur est en train d'intervenir de manière ponctuelle et des miracles s'accomplissent. Le Seigneur fait comme s'il descend, il agit et il s'en va, il passe pour aller agir ailleurs. C'est-à-dire des interventions surnaturelles qui interviennent dans les services naturels et ordinaires d'un serviteur de Dieu qui est né de nouveau. C'est comme ça que, par exemple, les évangélistes, quand ils sont en train de parler, parce qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui est toujours, qui a toujours le souci de parler à l'autre de Christ pour qu'il soit sauvé. Il est hanté par, il est préoccupé par le salut de l'autre. Un bon évangéliste, c'est quelqu'un qui va vouloir évangéliser tout le monde. Parce qu'il se dit, ça c'est par un grand serviteur de Dieu que j'ai appris ça. Un grand évangéliste qui a dit, moi, ce qui me donne la passion des âmes, l'amour de gagner les âmes à Christ, c'est seulement de savoir que celui qui est sauvé et qui va au ciel maintenant, c'est moi seul. Tout le monde là est perdu. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les représentants des gardes, que ce soit l'évêque, que ce soit le pape, il est perdu. Il a besoin d'écouter l'évangile du salut que moi je vais lui transmettre pour qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Alors, il va venir devant le pasteur et dit, pasteur, le Seigneur t'aime. Tu dois accepter d'être né de nouveau aujourd'hui. À notre époque, dans la jeunesse, on a eu beaucoup de problèmes avec des pasteurs à cause de ça. Vous arrivez chez le pasteur, vous dites, je viens vous dire que vous devez naître de nouveau. Alors le pasteur dit, qui es-tu toi qui dois dire au pasteur qu'il doit naître de nouveau? On a eu beaucoup de problèmes, je crois que Mathéabo va se souvenir avec Eka. Ceux qui sont de cette génération-là, ils vont se souvenir. Un évangéliste a le souci de transmettre l'évangile du salut. Il n'y a que lorsque vous me dites comment vous avez été sauvé et que je trouve que vous avez été sauvé comme moi, alors j'ai dit, je peux accepter, nous pouvons marcher ensemble. C'est ça l'évangéliste. Alors, il est arrivé plusieurs fois, pour les évangélistes qui sont ici, vous commencez à parler à quelqu'un de l'évangile, simplement, des paroles que vous avez toujours utilisées pour les autres, et vous voyez quelqu'un commencer à sangloter et à pleurer. C'est arrivé? Alors, à ce moment-là, vous pensez que qui fait? Qui agit? Est-ce que c'est toi? Les mêmes paroles que tu utilises pour tout le monde, mais l'autre pleure, l'autre réagit négativement. C'est lui qui pleure. C'est parce qu'il est touché. Qui l'a touché? C'est pas toi. C'est parce que lorsque tu étais en train de communiquer la parole de Dieu, la Bible dit que cette parole est esprit et vie. Le Saint-Esprit de Dieu est intervenu d'une manière surnaturelle. Il a touché l'âme. L'âme a décidé de se convertir. Pourtant, il est possible que cette parole soit dite par tout le monde ou soit dite à tout le monde sans avoir les mêmes effets. Amen. Alors, il y a un don spécial qui est venu comme une intervention surnaturelle, particulière, spéciale, spécifique pour la personne-là. Tout le monde qui a été sauvé, il a écouté une parole. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et cette parole, pour être sauvé, les jours où vous allez écouter, où vous avez écouté, où vous allez écouter la parole qui va être la base de votre salut, vous allez dire, ça, likuwa nasema, mie likuwa nasikia tu, mie njiko nasema. Anasema kingine, mie naona ni mie tu. Anasema kingine, anasema mie. Et ce jour-là, vous n'avez pas passé la nuit paisible. Ulisumbuka mpaka saa unarudi unasema, ah, niambie mara moja yote, na mie nijue, mie napumzika namna gani. Tout le monde qui est arrivé au salut à la nouvelle naissance est passé par ce tournant-là. Parce que le Saint-Esprit intervient dans la vie de ces machins. Alors, ce que je disais, la différence entre ministère et ministère ici, c'est que le ministère qui est un ministère où le Saint-Esprit intervient, il vient et il agit. Il intervient d'une manière surnaturelle dans le travail, dans le service habituel, naturel et normal d'un serviteur de Dieu né de nouveau. Amen. C'est comme ça que, quand la Bible dit, il a donné aux autres comme des apôtres, ceux qui implantent des églises. Il a donné aux autres comme des évangélistes. Il a donné, ça ce sont des ministères. Mais des ministères, lorsqu'ils sont exercés par des personnes nées de nouveau et qui sont engagées, consacrées au Seigneur, l'Esprit toujours intervient de manière surnaturelle. C'est-à-dire, les dons interviennent dans les ministères pour que les ministères soient spirituels. Amen. Amen. Alors nous qui sommes engagés dans les ministères, au sein de l'Église, ne les faisons pas comme nous voulons. avec nonchalance, avec... Non, faisons-les avec engagement. Parce qu'il y a d'abord être né de nouveau, mais il y a cet engagement-là pour plaire au Seigneur et faire les choses comme le Seigneur le veut. Alors vous allez voir des interventions surnaturelles, des dieux intervenir, des manifestations intervenir dans votre ministère. Parlons de la classification des dons spirituels. Après avoir dit tout ce que nous venons de dire, je voudrais vous rappeler que nous allons beaucoup insister sur les dons spirituels tels que présentés dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est vrai, nous allons aller à 14, nous allons aller dans d'autres chapitres, mais nous sommes fondamentalement d'abord dans le chapitre 12. Alors, nous avons 9 dons dans le chapitre 12 ici. Et ces dons sont répartis en 3 catégories, sont regroupés à 3 catégories. Et la première catégorie, c'est la catégorie des dons de révélation. Des dons de révélation. Dans la catégorie des dons de révélation, nous devons d'abord comprendre ce que signifie une révélation. Une révélation, c'est le fait de recevoir une communication spécifique de la part de Dieu, dans une situation spécifique, avec un problème spécifique et pour un but spécifique. Vous recevez une révélation spécifique, spéciale, sur un problème spécifique. Et le Seigneur vous donne la révélation pour que vous puissiez donner une solution spécifique dans une situation spécifique. C'est ça la révélation. C'est-à-dire, un problème se pose, tout le monde ne sait pas quoi faire, mais vous, vous êtes concentré avec le Seigneur, vous avez une pensée distincte qui vous donne une orientation particulière par rapport à ça. Et lorsque vous ouvrez la bouche pour parler, tout le monde dit « Ah, c'est lui à qui vous parlez, il se sent libéré parce que vous avez touché immédiatement la solution à son problème. » Alors, il y a trois dons dans cette catégorie. Il y a la catégorie de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Dans la deuxième catégorie, qui est la catégorie d'inspiration, comprenons que l'inspiration, c'est une force qui vient instantanément de Dieu et qui, saisissant les croyants nés de nouveau, les pousse à agir selon ce que l'Esprit lui communique en un moment particulier pour atteindre un objectif spécial. C'est-à-dire, vous êtes quelque part devant une situation, vous avez une communication instantanée. Vous êtes bloqué quelque part et vous avez une communication instantanée. Cette communication vous donne des orientations précises sur comment vous pouvez vous comporter pour atteindre un objectif précis. Alors, dans cette catégorie, nous avons les dons de la prophétie, les dons de parler en langue, les dons d'interprétation des langues. Troisième catégorie, nous avons les dons de puissance. Puissance ici est à comprendre comme le pouvoir et la capacité surnaturelle qu'un croyant né de nouveau reçoit instantanément de Dieu dans une situation particulière et qui lui permet d'influencer les cours des événements. Et c'est là d'une manière particulière. Et ici nous avons la foi, qui est une puissance, le fait d'opérer des miracles, les dons d'opérer des miracles, et les dons de guérison. C'est-à-dire, vous avez cette capacité d'influencer les cours des événements. Vous voyez par exemple, nous avions un pasteur dans notre paroisse, là où j'ai grandi, qui, lorsque nous sommes dans une campagne d'évangélisation, il pouvait dire, quand il veut pleuvoir, il dit, prions, parce que nous devons arrêter la pluie, et cette pluie ne va pas pleuvoir ici. Et il dit, Seigneur, nous te prions, très simplement là, sans crier, nous te demandons d'arrêter la pluie pour que nous puissions faire ta volonté à ce moment ici, en finissant l'activité d'évangélisation que nous faisons. C'était dans une campagne d'évangélisation, et la pluie a contourné, il a plu ailleurs, il n'a pas plu là où on était. La capacité, le pouvoir d'influencer les cours des événements. On va approfondir lorsque nous allons parler en détail de chacun de ces dons-là. Alors, je vais terminer la communication d'aujourd'hui en parlant de l'origine des dons spirituels. Comme vous avez constaté dans la lecture de la parole, il dit, à l'un est donné les dons de discernement, à l'autre est donné les paroles de sagesse, à l'autre... Par le même esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne des dons. qu'il est distribué à chacun d'entre nous comme il veut, quand il veut et où il veut. Nous ne sautons pas pour les dons pour les accaparer. Ce sont des interventions de Dieu qui sont en dehors de notre maîtrise, en dehors de notre pouvoir. Nous ne pouvons pas les maîtriser. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons que les talents, on peut apprendre et connaître. Mais les dons, on ne peut pas les apprendre. On les reçoit. Amen. Amen. J'ai rencontré quelqu'un qui a dit, non, toi, je crois que tu es chrétien, mais toi, tu ne parles pas la langue, je crois que tu as un problème. Parce que la langue, c'est un signe que quelqu'un est sauvé. Je dis, c'est vrai, moi, je suis sauvé, mais pourtant, je ne parle pas la langue. Il dit, bon, c'est pour cela que d'ailleurs, je mets un petit point d'interrogation sur ton salut. Alors, il m'a dit, nous étions trois, il dit, vous pouvez accepter que je puisse vous exercer au parler la langue. J'ai dit, exercer? Si un exercice est déjà compliqué, là, c'est vraiment... Alors, comme je le respectais beaucoup, c'était un pasteur de Nzambe Malam. Vous voyez, les gens qui viennent, ils peuvent venir avec des choses. Nous, on est éblouis, on commence à sauter sur ça, alors que ce ne sont pas de bonnes choses. Nous étions trois par respect. On se met à genoux, il dit qu'il va prier pour nous. Il nous impose les mains. Faites attention, n'acceptez à personne de vous imposer la main si vous ne les connaissez pas. Parce que nous... On a été imposé les mains, nous étions trois. Nous étions très fervents. Il y a deux qui étaient fervents, il y a le troisième que nous, on était en train d'approcher pour qu'ils se convertissent. On nous a imposé les mains. On a prié sur nous. Depuis ce moment-là, il a été difficile de continuer à prier à la maison. Même pour lire la Bible, c'était bloqué. Tout était bloqué. Parler du Seigneur pour l'évangile, c'était bloqué, bloqué, bloqué. On a fait beaucoup de mois, on ne savait pas comment se défaire de cette puissance-là. Alors un jour j'arrive chez l'ami, j'ai dit, est-ce que toi aussi tu es comme moi? Depuis ce jour-là, je suis en train de constater que j'ai prié difficilement, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de lire la Bible. Tout est bloqué. Il dit, alors ça c'est curieux parce que moi-même je suis comme ça. Alors nous avons rebobiné depuis quand ça a commencé. Nous nous sommes rendus compte que ça a commencé lorsqu'on nous a imposé les mains. On nous a déposé des puissances qui sont contre la puissance qui agissait en nous. On nous a bloqués, on nous a liés. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention. Si ce n'est pas un pasteur que vous maîtrisez, que vous connaissez bien, dont vous êtes sûr du salut, asikutie mkono na itika. Sababu utakuingiza vitu vyenye haujui vinatoka wapi. Alors donc, pour dire que les dons spirituels, on ne les apprend pas. On les reçoit par grâce. Ça ne dépend même pas du niveau intellectuel que vous avez. Ça ne dépend même pas du niveau de consécration que vous avez, du niveau de maturité spirituelle. Non, ça dépend de la disposition de votre cœur lorsque vous êtes né de nouveau et vous engagez à servir Dieu en toute sincérité. Le Seigneur va vous utiliser à n'importe quel niveau de votre maturité spirituelle. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir sur l'origine des dons spirituels. Ça vient du Saint-Esprit. Dans le but d'édifier l'Église. Édifier l'Église. Lorsque vous utilisez les dons spirituels qui viennent de Dieu, vous êtes vous-même édifié. Celui qui voit comment ça se passe, il est édifié. C'est-à-dire, on conjugue, je suis édifié. Tu es édifié, il est édifié, nous sommes édifiés. Vous êtes édifiés, ils sont édifiés. C'est comme ça que ça se passe. Si quelqu'un agit et il n'est pas édifié par ce qu'il a fait, il faut mettre un point d'interrogation parce que on ne sait pas, il est en train d'utiliser quelle force. Parce que nous sommes toujours dans l'admiration lorsque nous voyons Dieu agir. Amen. Amen. Qu'il ait agi par moi, je suis dans l'admiration. Je m'étonne. Qu'il ait agi par quelqu'un d'autre, je suis de la même manière dans l'admiration. Il n'y a que ce qui ne peut pas me surprendre, c'est ce que je sais. Quand j'ai joué au football, parce que j'ai été aussi une vedette dans le football, quand j'ai joué bien, ça ne me surprenait pas. J'ai joué bien pour surprendre les autres, mais pas pour me surprendre moi-même. Alors, les dons spirituels, qui ne vous surprend pas, c'est vous qui êtes acteur. Et ça, c'est déjà un mauvais départ d'un don spirituel. Parce que pour les dons spirituels, celui qui est acteur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et lorsque c'est le Saint-Esprit qui est acteur,
qu'il soit en train de m'utiliser ou qu'il soit en train d'utiliser quelqu'un d'autre, nous sommes tous surpris de la même manière. Amen. Amen. Si je prêche et que la prédication que je délivre ne me surprend pas, alors je suis sur une mauvaise base. Il faut que je dise des choses que l'Esprit m'a données, qui me surprennent moi-même, soit dans la préparation, même soit dans la prédication, et je me dis, en tout cas je suis surpris, j'admire le Seigneur dans ce qu'il a fait. Amen. Et ça, c'est le don spirituel qui intervient. Alors, lorsque nous sommes dans l'admiration, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit nous édifie. L'Esprit nous édifie. Alors, le don spirituel agit pour édifier. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est que le don spirituel intervient pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, si avant de voir ces dons-là intervenir dans l'église dont je fais partie, j'ai été au niveau A, quand ce don-là est en train d'agir, et c'est lui qui a été utilisé par l'Esprit, et moi qui ai vu comment il a été utilisé, nous montons d'escalier spirituel, nous faisons un pas spirituellement, nous croissons, nous grandissons spirituellement. Ça, c'est le deuxième rôle des dons spirituels. Amen. Amen. Le troisième rôle, c'est pour que ceux qui ne sont pas croyants se convertissent au Seigneur. C'est par exemple le don de guérison. Nous l'exerçons, celui qui a vu, il est édifié. Nous l'exerçons, celui qui ne croyait pas au Seigneur, il se convertit, il se tourne au Seigneur. Il y a beaucoup de textes, je pense que si je pouvais les donner, ça peut prendre beaucoup de temps, mais il y a des textes qui parlent de ça. Donc, des textes qui parlent de comment nous sommes édifiés, comment nous grandissons à cause de l'exercice des dons, et comment ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se convertissent au Seigneur parce qu'ils ont vu les dons exercés. Laissez-moi donner quelques textes pour que nous puissions boucler les enseignements d'aujourd'hui. Je parlais des dons spirituels qui servent à l'utilité commune pour édifier l'Église. Là, vous pouvez voir 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout s'efface pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ce sont des versets qui parlent de l'édification de l'Église par les dons de... Le don de l'Esprit a comme rôle d'édifier les croyants dans l'Église, individuellement et collectivement. Alors, pour permettre le perfectionnement des saints, Éphésiens 14, 11 à 15, là où on dit, il a donné aux autres, il a fait d'autres des prophètes, d'autres des apôtres, d'autres des évangélistes, et il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de l'Église. Plus loin, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Alors, pour la conversion de nos croyants, la parole de Dieu dit, laisse-moi dire, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ t'a guéri. Lève-toi et arrange ton lit. » Aussitôt il s'éleva. Tous les habitants de Lydde et du Saron les virent et ils se convertirent au Seigneur. C'est-à-dire, les miracles viennent pour que les gens se convertissent au Seigneur. Donc nous allons boucler en rappelant que le Seigneur veut que nous puissions quitter l'ignorance. C'est pour cela qu'il nous appelle à apprendre sur les dons spirituels et non pas à apprendre les dons spirituels. Amen. Le Seigneur veut nous rappeler que les dons spirituels sont donnés à des personnes qui sont nées de nouveau. Ceux-là qui sont nés de nouveau, ce sont ceux-là qui doivent et qui peuvent recevoir les dons spirituels parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les donne. Ce sont des grâces. Ce sont des grâces différentes, des talents. Des talents qui sont des capacités naturelles que les chrétiens peuvent avoir et les païens peuvent les avoir. Mais ce qui est spécial aux dons spirituels, c'est que les chrétiens seuls nés de nouveau peuvent les avoir, mais les païens, celui qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas avoir les dons spirituels. Il peut avoir des choses qui ressemblent aux dons spirituels, mais qui contribuent à sa perdition éternelle. Nous avons dit que les dons sont différents des ministères, parce que le ministère, c'est le service que nous faisons pour Dieu dans l'Église, qui peuvent être faits par les chrétiens qui sont nés de nouveau, et même des personnes pas encore nées de nouveau. Mais ce qui est spécial pour que votre ministère soit valorisé, c'est lorsque vous êtes né de nouveau et que vous faites ça avec consécration, avec dévouement. Dans ce cadre-là, dans votre exercice, de votre service, il est possible que des interventions ponctuelles, surnaturelles et opérantes de Dieu puissent se réaliser dans votre ministère pour le valoriser et lui donner du sens. Nous avons classé en trois catégories les dons spirituels. Et là, nous voyons les dons spirituels liés à la révélation. Nous avons parlé des dons spirituels d'inspiration et nous avons parlé des dons spirituels de puissance, nous les avons cités. Par là de l'origine, nous avons dit, si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ce ne sont pas des dons spirituels qui viennent de Dieu, qui doivent être utilisés dans l'Église. Et nous avons dit que les dons spirituels s'utilisent à l'Église. Si on vous amène en dehors de l'Église et qu'on commence à vous apprendre à avoir les dons spirituels, dites-vous que vous êtes sur une pente glissante, ne prêtez pas l'oreille à ceux-là, fuyez parce qu'ils veulent vous conduire sur une voie de la perdition. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Nous disons merci au Seigneur pour ce message.
Bonsoir. Je suis Jérémie Moussaï. J'aimerais juste savoir si dans notre église CBK, vu que nous sommes de baptistes, est-ce qu'il est autorisé de parler la langue à plein air comme les pentecôtistes?
Toutes les questions ont été comprises, j'espère. Le pasteur va avancer.
Alors, merci beaucoup. La première question, est-il possible qu'un seul don soit donné à toute l'église? Par exemple, parler à langue. Je crois que nous n'allons pas nous étendre beaucoup sur ça, de parler la langue, parce que nous allons y revenir avec force de détail. Mais parler la langue, tout ce que je peux dire sur ça, c'est que pourquoi le Seigneur ne peut pas donner à toute l'Église les dons, les seuls et même dons de parler la langue? Parce que chaque fois qu'il y a parlé la langue dans l'Église, selon les Saintes Écritures, comme nous allons les découvrir bientôt au courant de la semaine, une langue étrangère, c'est une langue que la personne qui la parle ne la connaît pas. Ça va? Il peut ne pas en connaître même la signification. Il faut qu'il y ait à côté quelqu'un d'autre qui a les dons d'interprétation des langues en même temps. C'est pourquoi Paul dit, si vous parlez la langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. Comprenez? Alors, et puis, les dons interviennent parce que Dieu veut apporter une solution à un problème. Et il n'y a pas qu'un seul problème dans l'Église pour qu'il puisse accorder seulement un don. C'est pourquoi il dit il y a diversité des dons et par le même Esprit. Et l'Esprit donne à qui il veut, où il veut, quand il veut. Alors, ce texte-là n'ouvre pas la porte pour que nous puissions croire qu'il peut donner seulement un seul don à tout le monde et le priver de tous les autres dons. Non. Il doit diversifier, même pour les parler à langue. L'un parle la langue, l'autre a les dons d'intervention, d'interprétation. Ce sont deux différents qui se complètent, qui travaillent ensemble pour l'édification de l'Église et pour la gloire de Dieu. Amen. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième question. Si j'ai les dons d'enseigner et que je sorte, parce que nous venons de dire qu'on est sorti de l'Église. Alors, il y a église et église, parce que vous pouvez savoir que vous pouvez penser que l'église, ce sont les murs ici. L'église, nous la prenons ici comme l'ensemble des appelés à quitter le monde pour se réunir autour de Jésus qui appelle et qui donne la vie. Alors, ils ne sont pas dans les quatre murs seulement. Ils ne sont pas dans seulement la CBK, parce que c'est une communauté localisée. C'est là qu'on parle de l'Église universelle dont nous parlons lorsque nous faisons la confession de notre foi. Je crois à l'Église, comment ? Universelle. C'est l'ensemble de tous ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ, qui sont partout dans le monde. Alors, lorsque nous sommes dans un coin, ceux-là qui se disent déjà nés de nouveau, ils se rassemblent pour servir Dieu, pour l'adorer et pour lui rendre le culte, pour prier ensemble, pour exercer le ministère ensemble. Ces gens-là, ils prêchent la parole, ils enseignent. Alors, si je sors pour aller enseigner, je sors avec la mission de l'Église pour aller amener les gens à l'Église. Je ne sais pas si celui qui a posé la question m'écoute. Je suis sorti pour aller vers le monde avec la mission de l'Église pour les gagner au Seigneur et les ramener à l'Église. Les ramener dans les troupeaux, dans le pâturage. Si je sors de l'Église pour aller les faire à d'autres fins, alors là je suis en train de faire ce qui est contraire à la mission de l'Église. Là je suis sorti de l'Église. Si je sors pour l'Église, à cause de l'Église, pour l'intérêt de l'Église, je suis encore dans l'Église. Mais quand je sors, non pas pour l'intérêt de l'Église, pour l'Église, je le fais pour les intérêts autres que les intérêts de l'Église, là je suis en dehors de l'Église, et c'est là que les dons cessent d'être un don spirituel venant du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'agit que dans l'Église pour l'édification de l'Église. Amen. Si une personne a deux ou trois dons spirituels, comment faire la priorisation, les choix pour qu'il puisse s'atteler sur un don, pour qu'il puisse avoir plus d'influence, plus d'impact? Là, il y a un piège. Qui veut avoir l'influence? C'est toi ou c'est Dieu en toi? Alors, quand tu dis que tu vas faire les choix, c'est toi qui fais les choix de ce que tu veux. La Bible a dit, quand tu as les choix à faire, déjà ce n'est plus un don spirituel. Parce que la Bible dit ici, tu n'as pas les choix, tu reçois ce qu'on te donne tel qu'on te l'a donné. Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que si quelqu'un a deux ou trois ou plusieurs dons, c'est vrai que quelqu'un peut avoir plus d'un seul don. Peut-être à la fin, si le Seigneur nous donne le temps, peut-être le Seigneur peut nous donner le temps, mais ça dépend aussi de votre engagement. Je voudrais avoir à la fin une leçon, peut-être en dehors de ce programme, qui va nous parler de comment découvrir les dons que tu as. Et si tu les découvres, comment tu vas les découvrir et comment tu vas l'exercer pour rester en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est un chapitre parce qu'il y a des papiers, il y a des exercices à faire, il y a des exercices qu'on ne peut pas faire ici. On doit faire ça comme dans une classe à l'école. Alors donc, permettez peut-être vous qui organisez la semaine, hein, on peut ne pas avoir ce temps parce que ça doit prendre plus de 4 heures peut-être de travailler sur ça. Or, nous n'avons pas un espace où nous pouvons avoir 4 heures. C'est pour cela que j'ai dit, ça va sortir de ce cadre pour que nous puissions peut-être aller dans une classe là-bas et y travailler. Si vous êtes intéressé, venez. Il est possible d'avoir plus d'un don. Mais ce n'est pas à vous de faire les choix entre les dons. C'est l'Esprit qui vous donne et vous recevez. Si vous êtes né de nouveau, si vous marchez selon l'Esprit, vous allez accepter de recevoir ce que l'Esprit vous a donné. Si vous voulez choisir, alors là, vous êtes en train de vous conduire et vous n'êtes pas plus conduit par le Saint-Esprit. Dans la CBK, est-il possible, est-il autorisé de parler en langue comme dans les églises pentecôtistes? C'est autorisé. Mais il faut que quelqu'un qui va interpréter soit là. Mais il ne faut pas venir après avoir concerté l'autre, vous dites, bon, minda sema, naouta sema. Alors ça, c'est pour triquer. C'est là que les gens commencent à nous diper et ils font passer des faux messages et ils nous font avaler des choses. Mais il y a un don de discernement des esprits. essayer de le faire, nous allons te discerner et nous allons te fouetter. Parce que ça ne peut pas se faire là où il y a le Saint-Esprit s'il ne peut pas donner à quelqu'un le don de se dire « ça c'est le mensonge, c'est une contrefaçon, il faut le discipliner ». Donc c'est un peu ça que nous devons savoir. Il est possible que nous puissions parler en langue dans ces deux cas, mais nous allons parler de ça à fond lorsque nous allons étudier les dons séparément. Les 9 dons, nous allons les étudier peut-être à partir de demain pour dire chaque don, comment ça fonctionne et comment ça doit être utilisé. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention.